Bonsoir à tous, merci de partager ce moment avec nous sur Fréquence Mistral, bienvenue dans l'œil de Sab. Ce soir, c'est une émission un peu spéciale, je ne vais pas recevoir un artiste, mais plutôt vous plonger dans une destinée hors norme. On dit souvent que la vérité dépasse parfois la fiction, et mon invité de ce soir en est la preuve vivante. Il a grandi à Marseille, il a connu la délinquance et le grand banditisme, jusqu'à participer à des braquages spectaculaires en Suisse, dont celui que la presse a surnommé le casse du siècle. Mais s'il est là ce soir, ce n'est pas pour glorifier son passé, c'est pour raconter sa chute, ses erreurs, la prison et le chemin vers la reconstruction. Nous sommes ici pour comprendre comment une vie peut basculer, comment on affronte ses fautes et comment l'écriture peut devenir une planche de salut. Il a choisi l'œil de Sab sur Fréquence Mistral pour livrer sa vérité. De la fiction à la vie, il n'y a parfois qu'un pas. L'œil de Sab commence maintenant. Bonsoir Jonathan Motaldo.
Bonsoir Sab.
Merci d'être avec nous ce soir.
Merci à toi de me recevoir.
Vous êtes l'auteur du livre De Marseille jusqu'à la Suisse pour le casse du siècle aux éditions Les Trois Colonnes. Avant d'entrer dans le récit de votre vie, j'aimerais que l'on s'arrête un petit instant sur ce livre. Qu'est-ce que ce livre représente pour vous ?
Ben en fait, c'est, on va dire, un recueil, un journal intime. Au début, c'était plus un journal intime de dire bon, « je vais écrire la suite demain ». Ça a pris 2-3 ans pour l'écrire, finalement. Et ça s'écrit doucement. Et en écrivant, ça rappelait des souvenirs d'enfance. Ça rappelait l'amitié avec certaines personnes qu'on a toujours aujourd'hui. « Putain, mais je travaille dans tel endroit, c'était comme ça, c'était bien ». Ça nous rappelle tellement de choses. Et jusqu'à la fin, de se dire, putain, on arrivait jusqu'à là quand même. On a quand même arrivé jusqu'à là, mais avec des regrets, d'autres non. Mais c'est tellement facile de dire, mais j'aurais pu faire ça, mais j'aurais pas pu faire ça, mais tu as fait ça, mais c'est bravo aussi. Et après, il y a des regrets sur certaines choses. Mais c'est beau, ça rend hommage à plein de gens que j'ai connus qui nous ont tendu la main aussi. Qui nous ont tendu la main, des erreurs qu'on n'aurait jamais dû faire, des mauvais choix de parcours. Et c'est comme ça.
Est-ce que l'écriture est une sorte de thérapie ?
Je pense que oui. Je pense. Et avant d'écrire ce livre, quand j'étais à la maison ou quand j'étais là-bas, j'aimais bien écrire. On a plus de facilité à peut-être à dire les trucs en...
De poser les mots sur une feuille,
que de le dire parfois à une personne. Et quand la personne lit, ah, mais il avait ressenti ça alors qu'on ne savait pas. Et c'est un peu ça ce qui s'est passé. Il y a des amis, ben, mes amis, mais, qui ont toujours été là pour moi. Ah putain, ce passage, c'est vrai qu'on avait eu cette discussion-là, mais ils se disent, quand ils lisent, putain, j'avais pas compris ce qui s'est passé à ce moment-là, pourquoi il y a eu ça, pourquoi il y a eu ci. Bon, maintenant, les gens le savent, mais ça fait du bien aussi que les gens sachent un peu plus que ce qu'ils voient dans les articles de presse, etc. C'est beaucoup mieux comme ça.
Mais pourquoi avoir ressenti le besoin de raconter votre vie, votre histoire, maintenant ?
En fait, c'était pas écrire. En fait, c'était un recueil, en fait, au début. Au début, c'était, ben, je vais écrire ce qui s'est passé de mon enfance... Jusqu'à maintenant, on va dire jusqu'à la fin, mais après ça s'est arrêté. J'avais écrit pendant 6 mois, après pendant un an, j'avais pas écrit. Après, j'avais la tête à mon ex au Canada, j'avais la tête à mes affaires de justice, au travail. J'avais plus écrit, mais quand j'écrivais à chaque fois, je reprenais tous les 3 mois, j'écrivais un peu. Ça me faisait du bien, je me disais, putain, ça fait du bien d'écrire. Et parfois, on se parle à soi-même quand on écrit, on se dit, putain, c'est vrai que ça, on devrait le mettre. Et tu te dis, bon... Bon, on va pas le mettre parce que ça a fait ça avec une personne. Je dis non, mais c'est la vérité, donc on va le mettre. Et ça fait tellement du bien d'écrire, en fait. Et ça m'a fait du bien. Ça m'a fait tellement du bien de parler de mes parents, Parce qu'on n'en parle pas, là, de nos parents, la plupart du temps.
Mais qu'est-ce que l'écriture vous a permis de comprendre sur vous-même ?
Que c'était un mauvais choix de vie. Que c'était un mauvais choix de vie. Ça, c'est une certitude. Mais, mauvais choix de vie, mais sans regret. Parce que je pense qu'on ne serait pas les personnes qu'on est aujourd'hui, que ce soit moi ou mes amis qui étaient avec moi, et qui sont toujours mes amis aujourd'hui. Je ne pense pas qu'on serait ces personnes-là. Parce qu'au fond, quand on a fait ça, on n'était pas... Comment dire, on n'est pas des voyous, on n'aime pas la violence, tous ces trucs et tout. Et c'était, on s'est dit quand même, on a fait ça avec le cœur quand même. On a fait ça avec le cœur, que ce soit des mauvaises choses ou des bonnes choses, on a essayé de faire ça, mais à notre manière. Mais peut-être c'était pas la bonne, Mais c'est vrai que voilà, on regrette certaines choses, d'autres non. Mais ça a soudé ces épreuves-là, on soudé les familles, on soudé l'amitié entre amis. Et aujourd'hui, on ne s'est jamais lâché. Quand il y en a qui se disputent pour conneries, que ce soit les filles ou les garçons qui se disputent, oh, l'autre, en soirée, c'était pas sympa, et ci et ça. Ils se disputent, ils gâchent des amitiés, des trucs, alors que nous, tout ce qu'on a traversé, on est toujours là, on est soudés, on ne s'est jamais lâché. C'est la famille qui nous aime, le regard de la famille.
Mais... Dans votre livre, vous précisez dès le début tout ce qui est écrit dans ce livre est la vérité mêlée à de la fiction. Pourquoi était-il essentiel pour vous de poser cet avertissement dès les premières pages ?
Ben, parce que c'est la vérité. Il y a des choses qu'on ne peut pas raconter dans les détails, en fait. Parce que comme on connaît les affaires de justice, donc il y a des gens qui n'ont pas été arrêtés. Ils ne savent pas certaines choses, comment on a fait pour arriver à certains trucs qu'on a réussi à faire. Donc, on était obligé de romancer certaines choses. Mais ceux qui ont participé savent très bien comment ça s'est passé. Ou ceux qui savent l'histoire, on sait qu'ils savent comment ça s'est passé. Mais comme la plupart des gens ne sont même pas fait arrêter, que ce soit les receleurs, que ce soit certains complices ne se sont jamais fait arrêter, donc on était obligé de romancer certaines choses. Mais sur 100% du livre, on va dire, il y a bien 80%, c'est la vérité. Bien 80%, c'est comme ça s'est passé. Il y a certaines choses que, voilà, on est obligé de détourner un peu parce que ça peut nous apporter, même au jour d'aujourd'hui, ça peut nous apporter des problèmes.
Pour comprendre l'homme que vous êtes devenu, il faut revenir au début, à l'enfant que vous étiez. Ouais. Comment décriez-vous votre enfance à Marseille ?
Ben, mon enfance, j'ai très très bon souvenir, en fait. Très très bon souvenir parce que... Mes parents ont grandi à la Cayolle. C'était, à l'époque, c'était des bidonvilles. Ils appelaient ça les bidonvilles, les tonneaux. Allez, quand je vois les photos de là où grandissent mes parents, ils sont connus là-bas. Ils sont toujours ensemble aujourd'hui. Ils ont grandi d'une famille pauvre. Mes grands-parents, du côté de mon père, venaient d'Algérie. C'était des pieds noirs. Mes grands-parents, du côté de ma mère, ont fui Franco en Espagne. Ils sont venus immigrer en France. Et en fait, à l'époque, ils ont tous mis dans les bidonvilles, que ce soit la Cayolle ou certains quartiers de France ou de Marseille. Et c'était là, et c'était toutes les ethnies, que ce soit juifs, arabes, noirs, africains, tout le monde était mélangé là. Mais comme disaient mes parents, on vivait bien, c'était, tout le monde s'aidait en la solidarité. Et quand on voit les photos, les reportages et tout, quand je vois ça, je dis, c'est beau quand même. Et bon, ils ont grandi un peu dans la misère, il n'y avait pas trop de travail, mais mes grands-parents avaient tout perdu en Algérie, mes autres grands-parents en Espagne. Donc c'était un peu dur, ils travaillaient, ils avaient beaucoup d'enfants. Mon père avait... ils étaient 7 garçons et une fille, donc ils avaient 8 enfants. Du côté de ma mère, ils étaient 13, c'était l'ancienne génération, beaucoup d'enfants. Et à Noël, ils avaient quasiment rien, c'était rien pour eux, ils n'avaient même pas de cadeaux, peut-être un chocolat, des mandarines, des trucs. C'était la misère, mais ils étaient contents d'être entre eux, et je pense que nos parents ont tout fait pour nous gâter au maximum, pour c'était des parents aimants, hein, parce que après ils ont quitté la Cayolle, enfin ils ont grandi la Cayolle, etc. et tout. Il y avait mes frères et ma sœur, moi un peu, et quand moi j'ai commencé un peu à grandir, mes parents sont partis du côté de la Pointe Rouge, un peu quartier un peu beaucoup mieux, on va dire, de Marseille. Et bon, on a continué à grandir là-bas parce qu'il y avait les tantes, il y avait les cousins, donc nous on y allait, on restait là-bas. Et voilà, en fait, on était à l'école à la Pointe-Rouge, on nous a inscrit à l'école à la Pointe-Rouge.
Mais c'est vrai que dans votre livre, vous insistez sur le fait que vous étiez un enfant protégé, oui, entouré de l'amour de vos parents et que vous avez manqué de rien. Vos parents ont beaucoup travaillé.
Ah oui, ils ont travaillé toute leur vie, mes parents. Et ça, ça me fait de la peine pour eux et que ce soit d'autres personnes, d'autres parents, hein, qu'on travaille toute leur vie. Toute leur vie. Moi, ils nous ont tout donné, que ce soit mes frères à moi, pour qu'on ait les meilleures éducations. À Noël, quand j'étais petit, moi, à l'école, bon, j'étais nul à l'école, mais bon, ils nous ont tout donné. Ils nous ont tout donné et c'était incroyable.
Qu'est-ce qu'ils faisaient, vos parents, comme travail ?
Mon père, il était maçon. Et ma mère, elle a commencé, elle était jeune, elle s'occupait du centre social de la Cayolle. Elle s'occupait, c'est la première association avec son ami Pouip, il s'appelait Dominique Pouip. Ils ont fondé la première association du quartier de la Cayolle pour faire partir les enfants qui n'avaient rien, parce que la plupart c'était un quartier miséreux, donc il n'y avait pas beaucoup de choses là-bas. Ils faisaient partir les enfants en colonie, les campings, tout ça, l'école, ils ont ouvert la première soutien scolaire là-bas. C'est beaucoup Dominique Pouip et avec ma mère, après la copine à ma mère Dalila, qu'on fait ça avec les enfants. C'est pour ça que nous quand les grands du quartier, et même les enfants, quand ils voient ma mère, etc., ils sont contents de l'avoir parce qu'ils ont dit, putain, c'est tout à fait pour nous quand on était petits. Et c'est beau. Et nous, on les voit en écran, ils ont notre âge, ils ont plus grand, l'âge de mon grand frère aussi. Et ils disent à chaque fois, ta mère, tout ce qu'elle a fait, il n'y a plus ça maintenant. Ils font beaucoup moins ça dans les quartiers maintenant. Ils font toujours, mais à l'époque c'était bien, on était à la piscine, on partait en colonie l'été, c'était tellement beau, nous tous dans le camion pour aller jouer au foot, tous, allez venez, on va tous, on faisait Pâques, je me rappelle, on prenait les œufs là, on les faisait bouillir avec ma mère, tous les petits, hein, tout le monde. Et on faisait la peinture dessus, on allait dans la colline à la Cayolle, là, à côté des calanques, on allait les chercher. C'était beau.
Une enfance joyeuse.
Joyeuse, ouais.
Mais alors, quelles valeurs vous ont-ils transmises ?
Le respect, la politesse, le travail. Ils m'ont dit, il faut toujours travailler dans sa vie, il ne faut pas voler. Après, c'était un mauvais choix de vie, mais ils nous ont dit, il faut travailler, il faut aimer se lever le matin, il faut faire les choses, le respect. Que ce soit tous les voisins, que ce soit tous les quartiers, quand on est dans le secteur, toujours poli, il faut toujours dire bonjour aux gens. Et c'est ce qu'ils nous ont inculqué, c'est la vérité, le travail, le respect, l'éducation. Après, c'est un mauvais choix de vie, mais je ne pourrais jamais leur enlever. La gentillesse, ils sont tellement gentils.
Mais justement, aviez-vous conscience à l'époque de la chance que vous aviez d'avoir des parents aussi présents ?
Je l'ai su quand je suis rentré en prison. Je l'ai su, mais je le savais déjà. Parce que déjà, tout ce qu'ils avaient fait pour moi, comme moi, j'étais nul à l'école, il y avait Noël. Il y avait Noël, etc. Et
quel enfant étiez-vous ? Quel genre d'enfant ?
Ah, turbulent, nul à l'école, nul. Mais ça ne me plaisait pas, l'école. Ça ne me plaisait pas. Il y en a, ça ne plaisait pas. Moi, ça ne me plaisait pas. Ça ne me plaisait pas. Moi et mes collègues, ça ne nous plaisait pas, l'école.
Alors, on comprend que vous partez dans la vie avec des bases solides, une famille aimante, des parents courageux, un cadre protecteur. Et pourtant, quelque chose va se fissurer. L'école.
Alors, je comprends peut-être les jeunes de maintenant. Bon, nous, on n'avait pas Internet, tous ces trucs et tout, là. Mais pour pas que les gens se moquent de nous dans la classe, alors on dit écoute, on est un peu des conneurs, on aime rigoler, donc les gens ont toujours été sympas hein, avec nous les gens et tout, et on était nuls à l'école et on voyait que les gens quand même un peu les autres classes, ils disaient ils sont nuls à l'école et tout. Bon, moi je savais à peine lire, compter, c'était très difficile. Tout ce qui est anglais, physique, on était à la ramasse complète.
Mais est-ce que c'est un manque d'intérêt pour les matières ou le sentiment de ne pas être à votre place dans le système scolaire ?
Les deux, parce qu'après, on était mal conseillés aussi. Après, ma mère a tout fait avec mon père pour essayer de me faire rattraper le retard, mais après, c'est trop tard. Ils ont pris un prof, avec l'argent qu'ils avaient, qui travaillait, ils faisaient venir un prof à la maison pour me faire prendre des cours, aller rattraper les cours. c'était beau. Mais après, ils ont compris que bon, ben, c'est pas son truc, l'école. Après, ils m'ont dit, qu'est-ce que tu veux faire? Ben, je sais pas. On ne sait pas. On était... moi, je pense, moi et mes amis, on était mal orientés. Il y avait je sais pas, les conseils d'orientation, c'est ça, on appelle ça
Absolument.
Comme ça. Ils nous envoyaient dans des trucs. Je dénigre pas ce métier, hein, qu'on m'envoyait tapis ameublement. D'ailleurs, aujourd'hui, ils gagnent très bien leur vie parce que c'est très rare et tout. On m'a envoyé faire ça. Enfin, moi, du coup, je sors d'école, 6e, 3e, 4e, je fais virer tous les collèges. Nul. Ils m'ont dit, bon, en 3e, bon, eh ben, y a pas le choix, tu es nul. Tu vas finir à. Ben, on va t'envoyer à Pointe-sur-Chapuis, très belle école, très très bien, très très bonne école, hein, Pointe-sur-Chapuis. On t'envoie là-bas, ben, tu vas faire tapis ameublement. Ça va pas durer longtemps, hein, ça a duré un mois, hein, ils m'ont dit aller.
Mais alors donc, à cet âge-là, où va-t-on chercher la reconnaissance?
On va chercher la reconnaissance, on va chercher dans le travail. Au début, on a commencé dans le travail. Donc on fait dans le travail et un peu... Toujours dans le travail au début. Au début, toujours dans le travail, parce qu'on a toujours travaillé. On a toujours travaillé. Ça, il faut mettre un point dessus parce que moi, je travaillais. J'ai commencé à l'âge de 16 ans. C'est là où je...
Dans quoi exactement?
Ben, j'ai commencé en tant que peintre. Ça ne me plaisait pas plus que ça. Donc, j'arrête. Mon père m'attrape comme un homme. Il me dit, mon fils, qu'est-ce que tu vas faire? Il me dit, je sais, tu n'es pas bon à l'école. On t'a essayé de faire rattraper l'école. J'écoute, je ne sais pas. Il me dit, écoute, mon père au hasard. Hein, il me dit, trouve un travail, je ne sais pas, dans un resto ou un truc qui te plaît, tu fais des formations, ok. Et je prends un CV, 2-3 CV, je vais déposer des CV sur le Prado, dans la restauration, etc. Et je tombe sur un ami, qui deviendra mon ami, puisqu'un ami maintenant, j'arrive à la brasserie Le Kilt, je dépose le CV. J'ai tombé sur le frère au patron, au début il n'était pas l'Antoine, c'était François, il me dit bah, écoute, passe demain, il y a mon frère, j'ai écouté faire un apprentissage parce que j'avais 15-16 ans, passe demain, et le lendemain il y a Antoine qui vient, il me dit c'est toi qui veux faire un apprentissage et tout. Bah, j'ai dit ouais, il me dit mais marque ton nom, ton prénom là, sur le truc, et peut-être on te recontacte. Il voit que je ne sais pas écrire. Il me dit tu prends pas une compte, tu ne sais pas écrire. Tu as 16 ans, tu ne sais pas écrire. Je dis non, je ne sais pas écrire. Elle me dit, toi, tu dois venir de la rue, toi. C'est difficile pour toi. Je dis, écoute, je suis pas de la rue, j'ai une belle famille, mais je suis nul. Voilà. Bon, elle me dit, allez, je te prends, viens demain, tu commenceras demain. Et de là, on commence un peu à travailler. Et on commence un peu les petits délits.
Oui, mais alors, justement, comment passe-t-on de l'enfant protégé à ses premiers vols?
Entre collègues, on est là, on se monte un peu le bourrichon, comme ils se font un peu dans les quartiers maintenant. Hein, ils se montent un peu le bourrichon. Mon meilleur ami Lucas, mon meilleur ami Jean-Michel. Ça commence par des conneries. On commence toujours, toujours, toujours petit.
C'est quoi petit? Quels ont été concrètement vos tout petits premiers délits?
Petit délit, bah écoute, on a commencé, on avait 16 ans. On va faire les courses, on appelle ça la technique du kangourou. Hein. On met les trucs sur nous, hein, dans les centres commerciaux.
Alors, expliquez mieux.
Enfin, la technique du kangourou, c'est... Ils appellent ça, bon, c'est connu, les gens se reconnaîtront qui le feront. La technique du kangourou, c'est bien, on met une bouteille ou, je sais pas, moi, des objets, on les met sous les vestes, on enlève les trucs qui ne sonnent pas et on passe caisse normale ou caisse... Enfin, bref. Et au début, c'était même pas utile ce qu'on volait. On volait les petites voitures de collection, on aimait bien ça.
Alors, pourquoi faire? Pourquoi faire ça?
Ben, c'était l'adrénaline, d'un coup. Fait ça nous... Ça nous a pris. Après, bon, on a quasiment arrêté. On avait 17 ans, ouais, 17 ans, on a quasiment arrêté. On travaillait, mon collègue à l'école, tata. Et j'avais un ami à moi d'enfance qui travaille dans une grande surface, une très grande surface, et qui me dit, écoute, moi, je suis à la caisse. On fait moitié-moitié. Ce que je te fais passer à la caisse, tu me donnes la moitié. Ben, tu vois, pourquoi pas? Ça a duré. Et le dernier jour... J'y vais, moi, Jean-Michel, mon cousin à l'époque et Lucas. Dernier jour, il y avait la caméra au-dessus et le gardien. Donc ils ont dû voir le manège depuis un mois, deux mois, ils ont dû voir le manège. Mon collègue y passe, mon deuxième collègue y passe. Et mon cousin, à l'époque, c'est tellement vieux qu'il y a certaines choses qu'il fallait faire passer par les caisses Kodak. On appelait ça les caisses Kodak. On ne pouvait pas faire passer par les caisses standards d'un supermarché. On était obligé d'aller dans les caisses, donner le ticket, comme qu'on a payé, etc., de faire sortir la truc. Il était venu avec un poste, un genre de poste. Mais au lieu de le poser gentiment, et de dire, ouais, ou de le payer et de faire griller personne, non, il a préféré me le jeter par terre et partir en courant. battre comme ses pieds. Donc le gardien a compris le manège. Il contrôle mon collègue qui est à la caisse. Moi, je suis juste devant. Ils me disent, bon, tu as payé 30 euros, il y a 200 euros de marchandises, il y a un petit souci qui ne va pas. Bah, ben, j'ai dit, quoi. C'est voilà, ben, c'est, oui, j'ai compris. Donc, mon collègue et moi, au poste de police du centre commercial, quoi, au truc de surveillance, ils appellent la police. Moi, je suis mineur à l'époque, j'ai 17 ans. J'ai 17 ans, lui, il a 18 ans. Donc, il nous amène quand même à l'évêché. Ça s'amène à l'évêché, il nous pose des questions, c'était qui les deux autres et tout. Comme il ne les connaissait pas, l'autre, il ne pouvait pas leur dire c'est qui. Moi, je dis, oh, je ne les connais pas, c'est peut-être des clients, je les connais pas. Ça démarre un peu comme ça. Ça dure un jour et demi la garde à vue. Sale, pourri.
Mais à cette époque-là, à ce moment-là, est-ce que vos parents se doutaient-ils de quelque chose?
Non, ils ne savaient pas.
Mais vous étiez quand même mineur, vous avez dit il y a un instant.
Oui, mais ils vont venir. Ils vont venir.
Chercher, je suis mineur. Ils vont venir au me chercher. Commissariat.
Ils vont venir me chercher. Donc c'est mon père qui va me chercher. Et donc, bon, ils disent vous allez être convoqué, je ne me rappelle plus une date, au tribunal pour passer, etc. Vous êtes convoqué devant le juge. Mon collègue, pareil et tout. Je sors de la garde à vue, ça puait. Enfin bref, on sait que c'est ça dans ces trucs. Moi j'étais avec les mineurs, donc avec 3-4, on dormait sur les matelas bleus, c'était tout serré. D'un côté, j'ai envie de sortir, de ce truc, mais ça m'a pas fait peur. Ça m'a même pas.
Donc vous avez pas eu conscience que vous étiez peut-être déjà en train de franchir une ligne où peut-être dans votre tête, c'était plutôt bon, bah c'est pas encore très grave ce qu'on a fait.
C'était pas, on peut dire que c'est pas encore très grave et ça m'a pas fait peur. J'ai pas eu la. Je me dis. Pour moi, c'était. Cette expérience. Normalement, il y en a qui te disent oh, on est en garde à vue, la police font peur, tatati, tu n'as pas dit tes collègues, tu vas avoir beaucoup de problèmes. Et ben, ça m'a pas. Et mon père le voit dans. Mon père le voit. Un père connaît ses enfants. Il vient me chercher. On va couper l'anecdote. Mon frère, il avait fait une connerie avant, mais une connerie ridicule. Mon frère avec son collègue, il casse une vitre d'une voiture. Mais pour rien, comme ça, il était petit. Il avait mon âge à l'époque, donc il était plus grand que moi. Il avait 5 ans de différence. Moi, j'avais 17 ans, donc lui, il devait avoir 22. Et il l'amène au commissariat. Mon père, il met une rouste terrible. Il dit, tu vas t'arrêter, tes conneries. Bon, lui, il n'a jamais fait de conneries. Donc, mais moi aussi, il ne savait pas que je faisais des conneries. Donc il vient me chercher au commissariat, à l'évêché. Et je le regarde, il me regarde, il me dit, allez, monte dans la voiture. Il me dit, alors, il me voit un peu rigoler. Et il me dit, ouais, je crois que j'ai compris. Ça t'a pas fait peur et je pense que le chemin va être tracé. Et un père connaît ses enfants. Il connaît, il se dit, lui je veux le frapper. Et il a dit, Antoine, plus tard, beaucoup plus tard,
il a dit, donc, Antoine, le patron, directeur de la brasserie du Kilt. Ouais. D'accord.
Et après, il a dit, et plus tard, quand il était beaucoup plus vieux, il a dit, j'ai compris, il a dit, je veux le frapper, ça va rien changer. Ça va rien changer. Il a dit, on connaît ses enfants, on sait que là, ce qu'il a fait, ça lui a peut-être plus plu d'avoir cette confrontation-là qu'autre chose.
Allez, on quitte le domaine des erreurs de jeunesse pour aborder un chapitre beaucoup plus lourd, celui des braquages en Suisse. Mais avant cela, je vous propose une courte pause musicale. Êtes-vous d'accord, Jonathan ?
Mais bien sûr, je suis tout à fait d'accord.
Pars-toi ! Cache-toi, je t'ai dit, qu'est-ce qu'il te faut de plus? T'en as pas vu assez? Et arrête de me regarder comme ça, t'as rien écouté, t'as rien compris. Comment je dois te le dire pour que ça imprime? Écoute, pauvre conne, je suis pas quelqu'un de bien, je suis pas une belle personne. Je suis une sale bête, une bouteille de gaz dans une cheminée. Et je vais finir par te sauter au visage si tu t'approches trop, comme ça a fait avec les autres. Mais tu sais pas de quoi tu parles, j'ai essayé, ça sert à rien, on change pas, on change jamais. Et quand bien même de toute façon ici y a pas de deuxième chance, on efface pas les ardoises. Me dis pas que t'es pas au courant, t'as pas vu, c'est imprimé partout, dans les journaux, sur les écrans, dans le regard des gens. C'est même écrit en grand sur les immeubles, la nuit, quand les gens bien comme toi sont endormis. C'est marqué en rouge, tu nais comme ça, tu vis comme ça, tu cannes comme ça. Seul à poil face à ton reflet, avec ton dégoût de toi-même, ta culpabilité et ton désespoir comme seul témoin. Non, crois-moi, tu veux vraiment pas que j'aille plus loin, parce qu'au mieux ça t'empêchera de dormir. Au pire, ça te donnera envie de me cracher à la gueule. Alors avant que je me transforme encore une fois, pars en courant. Fuis-moi comme le choléra. Non, j'ai braqué personne, planté personne, buté personne, mais je suis un voyou, c'est comme ça qu'on dit tout simplement. J'ai fait des choses que je regrette suffisamment. Suffisamment pour y penser tout le temps. Je pourrais te donner 1 million de bonnes raisons pour qu'on m'attrape, qu'on me casse les genoux et qu'on me cloue au pilori. Et si un jour on vient me chercher, je résisterai pas, je sortirai les mains sur la tête sans faire d'ennui. Mais avant que ça arrive, je voudrais que tu saches que j'ai compris, que je passe mes nuits entre cacheton et insomnie. Et que je vais me battre pour reconstruire un apprenti repenti, et tant pis, si ça me prend toute une vie. Pardon, que je parle un peu moins fort, ah on vous dérange en fait, merde. Et bah si on te dérange, tu te casses ou sinon tu fermes ta gueule, tu regardes ton assiette et tu nous fous la paix 5 minutes le temps que je termine, tu peux faire ça? Qu'est-ce qu'il y a? Ça te gêne qu'on te coince comme ça devant tout le monde? Bah ouais c'est chiant, je comprends mon gars. Mais dis-toi que t'as de la chance toi. Toi t'es né bien comme il faut, t'es solide, t'es cohérent, tu mets personne mal à l'aise dans les restaurants. Tu dors bien sur tes deux oreilles, t'es un bon petit français, t'es beau, t'es bien. Comme un magazine de déco, comme une maison, t'es moi. Ça t'arrive pas ces choses-là, hein. Tu vois absolument pas de quoi je parle. Et bah ouvre pas trop la porte de ton placard alors tu pourrais être surpris. Ça va te faire tout drôle le soir où les choses que tu pensais avoir enfouies. Faut savoir qu'en fait, elles étaient là, juste là, planquées sous le tapis. Elles sortent une main, puis te plantent une seringue dans le pied avant de disparaître. Et alors là, ça te prend à la gorge, comme des odeurs d'ammoniac. Ça te colle des sueurs froides, t'as les dents qui claquent. Mais non, je me calme pas, il sait pas ce que c'est lui. Il sait pas ce que c'est que d'être un crevard, d'être mal foutu, d'être une crasse, un pantin. D'être le terrain où le bien et le mal s'affrontent. Il sait pas ce que c'est. Non, j'ai braqué personne, planté personne, buté personne, mais je suis un voyou, c'est comme ça qu'on dit tout simplement. J'ai fait des choses que je regrette suffisamment. Suffisamment pour y penser tout le temps. Je pourrais te donner 1 million de bonnes raisons pour qu'on m'attrape, qu'on me casse les genoux et qu'on me cloue au pilori. Et si un jour on vient me chercher, je résisterai pas, je sortirai les mains sur la tête sans faire d'ennui. Mais avant que ça arrive, je voudrais que tu saches que j'ai compris, que je passe mes nuits entre cacheton et insomnie. Et que je vais me battre pour reconstruire un apprenti repenti. Et tant pis, si ça me prend toute une vie. Comment est-ce que tu peux penser que tu tiens à moi si moi-même j'y tiens pas?
Nous sommes de retour avec Jonathan Moltado, l'auteur du livre De Marseille jusqu'à la Suisse pour le casse du siècle aux éditions Les Trois Colonnes. Avant d'aller plus loin dans les bijouteries suisses, il y a quelque chose d'important à expliquer aux auditeurs. Vous utilisez ce qu'on appelle la méthode du bélier pour que tout le monde comprenne bien qu'est-ce que la méthode du bélier.
En fait, c'est on vole une voiture, on prend une voiture. Et on fait marche arrière sur la devanture, en fait. Porte, sas, etc. Et tout ça casse. Et tout ça casse, en fait. Et on rentre, on vide, on s'en va. On casse les caissons avec les masses à l'intérieur. Normal, parce que là, ça casse. Mais la bélier, c'est marche arrière d'entrée dans les façades des portes, etc. Parce que ça, il casse, en fait. Il casse sous les caissons.
À quel moment de votre parcours vous découvrez cette technique?
Eh bien, en fait, c'est un peu retour aux sources à la Cayolle, parce qu'il y a quand même un peu des délinquants, etc., qui nous parlent de technique. Et après, on s'est renseigné sur Internet, et on voit des vidéos de cases de bijouterie. On voit celui des Pink Panthers qu'ils avaient fait à
Dubaï.
À Dubaï, c'est ça. Ils avaient fait le truc à Dubaï, dans le mall, en fait. On s'est inspiré de cette technique-là pour faire le musée Jaeger-LeCoultre et pour faire d'autres bijouteries comme ça, la même technique, en fait.
Le choix du véhicule est-il important?
Ça dépend de la vitrine. Si c'est elle est épaisse, vraiment épaisse, il faut peut-être un petit SUV, un peu plus la malle un peu plus large pour pas trop abîmer la voiture pour pouvoir repartir avec ou pour la dégager de dedans, ou sinon une voiture classique, parce que la plupart des portes ils cassent, c'est pas des portes vraiment pas inciter les gens, mais c'est pas des portes vraiment solides. Une voiture, ça en dedans, ça casse.
Mais est-ce que la violence du geste est calculée?
Oui, quand même, parce qu'il faut quand même rentrer un peu fort dedans, tu ne peux pas y aller doucement, mais on a appris plein de choses, comme ça. Après il y a eu les techniques avec la disqueuse, enfin, il y a eu tellement de techniques après.
Alors, votre première bijouterie, c'est à Verbier, en Suisse.
Ouais.
Pourquoi ce lieu?
Ce lieu, pourquoi? C'est qu'en fait, on avait repéré deux bijouteries, à Verbier et une à Monté, c'est une ville un peu plus loin, à côté de la Suisse. Et finalement, on est monté à Verbier et on a technique classique, vol de voiture.
Alors, mais comment se prépare ce premier braquage? Repérage, timing, organisation? J'imagine que rien n'est laissé au hasard.
Ah non, non, on monte 3 jours avant en Suisse, comme des touristes, on monte, repérage, on regarde les routes, on regarde où c'est qu'il y a des voitures garées pour pouvoir la voler, laquelle qui nous plaît le plus, enfin, la plus facile à prendre ou la plus adéquate. Et on regarde une, deux, trois voitures, les centres de police où ils sont, le temps qu'ils viennent, en roulant nous aussi un peu fort, parce que la nuit, il n'y a pas beaucoup de personnes en Suisse, donc on roule un peu fort en disant peut-être s'ils arrivent, eux, ils vont arriver un peu plus fort. Donc on compte le temps, combien de temps on a. Et finalement, tout est calculé, hein, on voit combien il y a de caissons, parce qu'on voit de l'extérieur, on rentre l'après-midi dans la bijouterie. Pour eux, ça paraît banal, on rentre, on regarde, et voilà, et ça se fait comme ça, on vide, tac, tac.
D'accord, mais qu'est-ce que vous prenez concrètement ?
Des montres, bijoux, diamants, tout ce qui a de la valeur. Hein.
Mais est-ce que vous saviez exactement ce que vous cherchiez ? Ou sinon, qu'est-ce que...
On savait déjà, parce qu'on avait déjà repéré ce qu'on voulait prendre, les pièces qu'on voulait prendre, parce qu'il y a des pièces... Malheureusement, ça coûte des sous, mais à la revente, finalement, il y en a que ça rapporte quasiment rien, donc plus encombrant qu'autre chose, donc on ne les prend pas, et on cible quelques pièces qu'on veut, et on prend.
Et à ce moment-là, avez-vous une idée de la valeur du butin ?
Ben, il y avait les prix dessus, d'autres, il n'y avait pas de prix, donc on essayait de faire des recherches sur Internet, après on connaissait certaines personnes qui rachetaient ça, des receleurs, et finalement, ça coûtait pas mal d'argent. Finalement, ça coûtait pas mal. Au final, bon, après, il y a les assurances, quand on s'est fait arrêter, on connaît comme c'est. Il y en a qui rajoutent des trucs, il y en a qui rajoutent pas. On se dit, oh, putain, il y avait ça, ils l'ont pas oublié. Dans les deux sens, parfois. Et on s'est dit, bon. Et il y a des prix qu'on savait pas, sur certains demandes qui avaient pas des prix, on ne trouvait pas, parce qu'il y en a, c'était même pas référencé. Donc, on s'est dit, oh, putain, quand ils nous disent ça valait ça. Bon, ben, finalement, on a vendu pour rien ou on l'a bien vendu.
Mais qu'est-ce que vous ressentez en sortant justement de cette bijouterie à Verbier ? Un soulagement, une euphorie
Une euphorie, une sensation, voilà, il n'y a que certaines sensations, les médecins disent que pour avoir ces sensations-là, il n'y a que trois façons de l'avoir, c'est en faisant l'amour, en vraiment des sensations intenses, et le sport intensif, ça, c'est de l'endorphine en fait, et là ça dure tellement longtemps en fait, parce que le temps de prendre la voiture, tu trembles un peu, mais c'est les bons tremblements, c'est pas les tremblements de te dire, il y a les tremblements de peur que là c'est fini, là il faut pas le faire, parce que tu peux te mettre en danger les autres autour de toi, mais là c'est le tremblement que tu as peur, mais tu es excité de le faire, et c'est ça te monte, donc cette sensation quand tu rentres, que tu vides, que tu remontes dans la voiture, que tu te changes, que tu repasses les frontières. Et ça dure tellement longtemps, parce qu'il faut arriver jusqu'à Marseille.
Mais justement, comment avez-vous réussi à sortir de la Suisse et à rentrer en France ?
Eh bien, en fait, on est passé par la montagne. Comme des alpinistes, on a garé la voiture. Mon ami est passé par la frontière, donc ils l'ont contrôlé, mais il n'y a rien. Donc pour eux, c'est un touriste, donc il n'y a rien dans la voiture. Et moi, je suis passé par la colline. Et dans ma tête, je rigole parce que je l'écris dans le livre. Au début, je me suis dit, je vais jamais la passer, la colline, j'arrivais jamais à arriver de l'autre côté. Et en fait, j'ai dit, putain, demain, ils vont marquer dans les journaux, il a réussi la bijouterie, mais il s'est fait manger par un ours. J'avais les bijoux sur moi, j'ai dit, je vais me faire manger parce que là-bas, c'est les Alpes, c'est quand même vraiment sauvage. Il y a des ours, il y a des loups. Bon, je n'ai pas croisé, mais je me suis dit, je vais pas mourir là. Je traversais un lac, j'ai dit, mais je vais pas mourir là. Pas mourir maintenant, quand même, j'étais jeune, j'ai dit, ah, pas mourir bêtement comme ça, là. On a réussi le truc, je vais me faire manger, j'arrive. Et finalement, j'ai réussi à la passer, la colline épuisée en une larve, j'arrivais en bas. Je vois mon ami qui m'attend en bas, j'étais content, je l'embrasse. J'étais plein d'eau, plein de sable. Et il me dit, allez, viens, rentre et tout. Je me suis changé dans la voiture, on descend direction Marseille. On arrive vers une aire d'autoroute, je ne me rappelle plus c'est laquelle. Je sais pas, c'était en France. On avait des affaires de rechange, je me lave dans la station-service. J'étais content, j'étais soulagé, j'ai dit putain, on a réussi et tout. Et on était tellement heureux, parce qu'on était que tous les deux à ce moment-là, on n'avait fait que ça que tous les deux. On était heureux, on était content, et on a dit c'est bon, c'est gagné, on a réussi.
Après Verbier, vous participez au braquage de la bijouterie Jaeger-LeCoultre dans la vallée de Joux.
Ouais.
Pourquoi vous continuez ? Pourquoi ne pas s'arrêter ? Est-ce que l'argent appelle l'argent ? Est-ce que le danger devient une drogue ?
Tout ce que vous avez dit, c'est ça. L'argent appelle l'argent, le danger, l'adrénaline, et de remonter sur une belle affaire, parce que Jaeger-LeCoultre, c'est quand même une très très grosse concession de montres. C'est l'une des plus grosses concessions de montres du monde. Et le musée, il était même pas encore ouvert, ils étaient en train de l'inaugurer. Donc
là, c'est un autre niveau.
C'est un autre niveau. On s'est dit, on nous a donné le tuyau, on s'est dit, ça peut pas être facile comme ça. Et finalement, ça s'est passé comme une lettre à la poste.
Est-ce que justement, vous vous êtes dit, ah, est-ce que vous avez eu plutôt le sentiment d'être devenu professionnel ?
Là, on se croyait intouchable. Quand les gens l'ont su, parce que ça s'est su, ça, ils en ont parlé de partout dans le monde entier, ils ont dit qu'ils ont réussi ça, c'est eux qui ont réussi ça. Et ça a tellement parlé qu'ils se sont dit, mais c'est pas possible qu'ils ont réussi ça. Eux, qui sont partis d'un quartier comme ça, qu'ils ne sont pas du grand banditisme, ils sont pas fait ça. Ils sont là, ils sont au-dessus de certaines personnes qui ont fait ça toute leur vie.
Toujours avec la même méthode.
Toujours la même méthode. Et là, c'était le cas, comme à Dubaï, on s'est inspiré des Pink Panthers, on est rentré carrément dans le hall d'entrée du musée. Et on a vidé les caissons, on est parti. Et ils étaient tellement sûrs d'eux, en fait. Je pense que le système de sécurité, pour eux, ils se disaient c'est infranchissable, c'est infaisable. Et c'est ce qu'ils disaient dans la presse. Et en fait, pour nous, ça a été de tout ce que j'ai fait aujourd'hui, ça a été le truc le plus facile que j'ai fait.
Ah bon ?
Je trouve que ça a été le truc. Quand on s'est dit avec les collègues, on s'est dit de tout ce qu'on a fait, ça a été le truc le plus facile qu'on a fait.
Mais qu'est-ce que vous prenez lors de ce second braquage ?
18 montres. 18 montres d'exposition d'une valeur. Alors, je ne sais pas comment. Pour eux, il n'y a pas de valeur parce que c'était des montres d'exposition, c'était des trucs. Le fleuron de ce qu'ils faisaient.
Donc, le butin était complètement plus important que celui de Verbier.
Ah oui, mais c'était incomparable. C'était quasiment incomparable. Eux, ils ont estimé valeur d'assurance. Il y a 2-3 millions de francs suisses. Mais il n'y en avait que 18 et valeur d'assurance. Mais pour eux, ça valait des. Ça peut valer, au jour d'aujourd'hui, il dit ça vaut 10, 20, 30 millions, en fait. En fait, parce que c'était des choses inestimables. C'est comme si, ben, un peu comme le Louvre, un peu comme la Joconde, tu dis c'est des choses inestimables, c'est des choses, ça a tellement de valeur, en fait. Et on a réussi, on s'est dit, c'était facile.
Mais donc, après ce deuxième coup réussi, est-ce que vous vous sentez complètement au-dessus des lois ?
Ah, on se sent intouchable.
Ce que vous avez dit il y a un instant.
Ouais, on se sent intouchable, on se dit, il n'y a rien qui peut nous arrêter.
Mais pourquoi alors ? Comment ? Quand ? Pourquoi ? Et dans quelles circonstances êtes-vous arrêté, finalement ?
L'orgueil, là, c'est tellement sûr du truc. Tu dis, ça va passer. Et une troisième bouterie, une quatrième. Et on revient à Verbier. Ça commence à Verbier, ben, ça va finir à Verbier, finalement. On revient à Verbier, on a dit tiens, on va à une grosse bijouterie qui était une concession qui venait d'ouvrir. On s'est dit on va aller là-bas. Et mon meilleur ami, Lucas, qui faisait des trucs avec moi, il a dit non, moi je fais plus, j'arrête et tout. Moi je suis de côté, laissez tomber. Donc je monte avec trois autres complices à moi, dont un qui était déjà avec nous. On arrive là-bas à Chamonix, etc. Donc on se fait repérer, la voiture. Donc on rentre à Chamonix, on s'est dit, bon, je vais appeler mon ami, je vais appeler Lucas, j'ai dit, Lucas, viens nous rejoindre, s'il te plaît, j'ai besoin de toi. Mais comme c'est mon ami, il est monté, mais lui, il pensait qu'on avait réussi la bijouterie. Lui, il pensait que quand je l'appelais, c'était juste pour nous faire le devant de la route, pour, voilà, lui, il a les bijoux, nous, on a les bijoux, lui, il a rien, il est devant, il nous appelle s'il y a un problème. Un gros face, quoi, mais deux bijoux. Et il dit, non, moi, je peux pas. Une dispute éclate entre Camille et Lucas. Il dit, non, moi, j'ai toujours été là pour toi. Quand tu as eu besoin de moi, j'étais là. Ils se disputent et tout. Je l'attrape après. Je dis, écoute, c'est le dernier. C'est la dernière fois. Et après, on arrête tout. Il me dit, tu me jures que c'est la dernière ? Je te jure, mon ami, c'est la dernière. On fait ça là, on rentre. Et on rentre chez nous. Et finalement, on y va. Coup du destin, on trouve pas trop la voiture, on trouve une voiture finalement, on apprend, on monte. J'avais oublié les gants à l'hôtel, donc j'avais pas de gants. Je mets une paire de gants, mais trop fines. Donc on monte, pareil, casse-bélier, mon ami casse la porte, on casse les vitrines, et à un moment donné, il y a une vitrine qui me tombe sur le doigt en fait. Mais j'ai pas réalisé que j'avais saigné autant. Je pensais que j'avais saigné que sur le portoir de l'où il y a les bijoux. Donc, je prends le portoir entier, enfin le meuble, je le mets entier dans la voiture. On s'en va, on arrive à la déchetterie comme prévu, tout ce qui était prévu, tout est calculé. Et voilà, et en fait, on se sépare. Mon ami me dit, dors avec moi dans la forêt. Je dis, non, sûr de moi, je t'inquiète, je dors à l'hôtel, je viens te chercher demain. Au final, un barrage un peu plus loin, arrestation, et c'est fini, prison.
Comment ça se passe, une arrestation ?
Ça se passe qu'on redescend vite sur Terre. On redescend vite sur Terre, on s'est dit là, ça y est, on est parti. C'est parti pour les vrais problèmes.
Mais qu'est-ce que vous ressentez, justement ?
Si.
Qu'est-ce qu'on ressent ?
On ressent...
La peur ?
La peur, bien sûr. Parce que j'avais mes faits de prison avant ça. Donc j'ai dit, putain, là c'est mal barré.
Mais comment se déroulent les interrogatoires,
Très, 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 très dur.
Vous mettez des coups de pression?
Très, très dur. Au début, ben moi, je savais que j'étais mort, donc j'avais signé dans la bijouterie. Enfin, je ne savais pas encore qu'il y avait mon sang dans la bijouterie. Donc, il m'arrête, il me dit, ouais, tu as signé dans la bijouterie. Je dis, non, moi, je n'ai pas signé, je n'ai pas fait de bijouterie, je reste sur ça. Ouais, ben, il me dit, tu sais quoi, je me dis, en Suisse, c'est vite fait, ce n'est pas comme en France. Hein. En France, ce n'est pas comme ça. En Suisse, il me dit, écoute, on fait un petit test ADN, dans une heure, on a le résultat. Si c'est pas ton sang dans la bijouterie, tu parles, hein, toi et ton ami. Moi, sûr de moi, je dis, vas-y, tiens, faire par l'ADN. Il me dit, non, c'est ton sang. Il n'y a pas mon sang dans la bijouterie, c'est pas possible, j'ai pas fait de bijouterie. Il m'amène dans la bijouterie, il y avait du sang partout, en fait, par terre. Bon, ben, j'ai dit, ouais, ben ouais. Donc là, ça dure là. Il nous ramène au commissariat, à Martigny, à la centrale. Après, c'est des polices plus expérimentées qui prennent le relais. C'est comme la BRB de chez nous, en fait. C'est les gendarmes, après, c'est eux. Ils me disent, bon, allez, parle, laisse tomber. Moi, je dis, ouais, écoute, j'y étais. Il me dit, les deux autres. Dis pas non. Le but, c'était qu'il quitte la Suisse avec les bijoux et qu'il rentre à Marseille. Donc, on ne dit pas le non. Mon ami, je sais qu'il était mort avec moi à cause de moi, parce qu'il y avait mon sang, donc il était dans la voiture. Il dit, bon, lui, il y est aussi. Donc en fait, il nous amène en prison. D'abord, il nous amène devant le juge. Il demande à un juge, comme en France. Bon, alors, vous connaissez les faits. Hein. Il sait qu'il est deux autres, deux noms bidons. On ne dit pas les noms. On vous amène en prison. J'arrive à Sion, prison disciplinaire.
Quand vous entrez en prison, que ressentez-vous vraiment ?
La peur. La peur. Et surtout quand au début, ils me mettent dans une salle d'attente. Je suis seul, la fatigue, parce que ça fait deux jours que ça dure. Les interrogatoires, plus on était en Suisse. Les volets des voitures, on n'avait pas dormi pendant ça faisait trois jours. Donc la fatigue, on commence à fatiguer. Donc ils nous descendent, enfin ils me descendent, mon collègue aussi, mais je l'ai su plus tard. Ils nous descendent en bas, J'arrive à cette prison disciplinaire de Sion. J'arrive en bas. Le chef de détention il me dit déshabille-toi, mets-toi tout nu, va à la douche. Il m'enlève tous les habits et tout. Il me dit tiens, une tenue. Il me donne une tenue verte de prison, là, de chez eux, parce qu'on n'a pas beaucoup d'habits chez eux. Il me donne ça. Et le chef de détention, c'était Steiner. À l'époque, c'était un Allemand, un Suisse allemand. Et il y avait un vieux gardien à côté. Il me dit et Steiner me dit pourquoi tu es mis au secret ? Je réponds, je dis, c'est quoi le secret? Je sais pas ce que c'est le secret, moi. Et le gardien d'à côté me dit, c'est qu'il a pas parlé. Putain, dans ma tête, je crois que ça va être difficile. Je pense que ça va être dur. Et c'est là, ils m'ont mis dans un trou. Ils appellent ça, en Suisse, ils appellent ça, c'est un trou. Matelas, toilettes turques, l'eau était à côté des toilettes, parce que tu mettais la tête dans les toilettes pour pouvoir boire. Tu mangeais avec les mains, pas de lumière. Tu avais une lumière opaque que tu voyais un peu dehors. 23h24. Le week-end, il n'y avait pas de sortie, donc tu étais enfermé toute la journée dans un truc.
Est-ce que la solitude est plus violente que l'enfermement ?
C'était dur. Ça a duré 8 jours là. 8, entre 8 et 10 jours, ça a duré comme ça. Sans que ma famille sache où je suis. Donc ils sont pas prévenus de la famille, ça y est, personne. Et plus les interrogatoires qui continuaient, ils ont changé ces lois-là, parce que je pense que c'est grâce à des gens comme nous, d'autres gens aussi qui se sont plaints, qu'ils venaient nous voir tous les matins ou tous les après-midi ou le soir, à n'importe quelle heure, ils venaient, tac tac, allez, interrogatoire. Ah, j'ai dit putain.
Est-ce que vous touchez le fond ?
Ah, je touchais le fond. Là, quand j'étais au secret, je touchais le fond, j'ai dit putain.
Vous avez eu des pensées sombres ?
Quand je suis monté en haut aux étages, je me suis dit, quand ils m'ont enlevé du secret, parce que là-bas, le secret durait un mois maximum, ils m'ont gardé 10 jours, parce que j'ai reconnu les faits, donc ils m'ont dit, bon, ok, j'ai reconnu les faits sur deux bijouteries. Donc ils me montent en haut, ils me disent, bon, allez, on monte en haut, je passe devant le juge, on va vous mettre en haut. Et ils appellent ça les quartiers disciplinaires aussi en Suisse. Donc j'arrive dans une cellule mur béton, mais c'est propre, hein. Ça c'est vrai que c'est tout propre. Donc, mur en béton, pas de plaque, pas de douche, pas d'eau chaude. On peut rien acheter à manger, à part des cigarettes, moi je ne fume pas. Les produits d'hygiène, bien sûr, et du chocolat, enfin voilà, ça. Pas de livres, donc certains livres, on n'avait pas le droit. Pas d'école, pas le droit derrière les vitres. Deux douches par semaine, donc je ne sais pas ce qui se douche deux fois par semaine. Deux douches par semaine, si tu restais plus de 10 minutes sous la douche, on te coupait la télé. À manger comme les animaux par les guichets. J'ai eu des idées noires, j'ai dit putain, je peux pas, j'y arriverai pas.
Des idées noires, c'est-à-dire des pensées suicidaires.
Suicidaires, ouais, je peux pas rester.
Mais qu'est-ce qui vous a empêché de basculer complètement ?
Ben, je sais pas, parfois on se parle à soi-même, on arrive peut-être vers cet acte-là, on se dit, et là dans sa tête, ma tête, ça m'a parlé, mais ça m'a fait... Je suis croyant, moi.
Et bien, justement, quel rôle a joué la foi ?
La foi, Dieu, tout ça. Il te dit, tu as voulu faire le voyou. Et bien, maintenant, tu y es, tu vas assumer jusqu'à la fin, maintenant. Tu ne vas pas faire ça. Il y a des gens qui t'aiment. Tu ne peux pas faire des choses comme ça. Et je me suis relevé, j'ai dit, ouais, c'est vrai. Et voilà, je l'ai mal vécu, les parloirs derrière les vitres, pas d'école, etc. Très mal vécu. Et j'ai dit, de toute façon, ça, les avocats stagiaires, à l'époque, ils donnaient des avocats stagiaires. Donc ça a changé aussi, ces lois-là. Ils donnaient des avocats stagiaires. Donc ça veut dire qu'il n'a jamais vu, un tribunal, le pauvre avocat. Il va te venir descendre, te défendre sur des affaires comme ça. Je me retrouve dans ça. J'ai dit là, je savais déjà que j'allais recommencer avant même de sortir de prison.
Alors, ok. Donc, après la prison, on pourrait penser que tout est terminé. La détention vous a marqué, éprouvé, parfois même brisé. Mais elle ne coupe pas toujours avec le passé. Donc là, à votre sortie, vous retrouvez la liberté, mais aussi les tentations, les anciens réflexes, les contacts, les opportunités. Et c'est précisément à ce moment-là que votre trajectoire bascule une nouvelle fois. Vous allez participer à ce qui deviendra l'un des braquages les plus marquants jamais commis en Suisse. Le cas d'Audomar Piguet.
Ouais, c'est ça, exactement ça. Et en fait, ce cas, il est venu, l'idée est venue en prison, en fait. Quand j'étais à Sion, en fait, en prison, c'est quartier disciplinaire, j'avais le soutien, on va dire, de tellement de monde. Parce qu'il dit, ouais, il faut faire changer les choses, et ça. Et un mec politique qui était en prison avec moi, bon, il a donné l'idée, mais il n'a pas donné le tuyau. C'est pas lui qui a donné le tuyau, il faut préciser ça. C'est pas lui qui a donné le tuyau. On discutait, j'ai gardé le coup, c'était une grosse affaire, tatati, des trucs de Suisse et tout. Donc pour lui, c'est intrigué qu'un Marseillais se retrouve ici. Donc on discutait, si et ça. Et il me parle du musée Audemars Piguet. Il me parle de ça. Et sans trop donner. Lui montrer que ça m'intéressait, je lui dis ben, c'est comment le système de sécurité. Ah, il me dit, ah, ben, tu peux pas rentrer, hein, c'est tout blindé, si ça, tatati. J'ai les montres, ils sont où, ils me parlent, ils me donnent tous les détails. Les montres, ils sont au premier étage, j'ai les caissons, ils sont blindés. Il me dit, non, c'est pas blindé. Les heures de ronde, il me donne le numéro de la société. C'est un truc de fou, c'est pas possible. Il me donne la société, mais ça reste là, j'étais en prison, c'est pas possible. Et j'ai dit, ils sont où les montres? Il me dit, ouais, ils sont au premier étage. Bah, j'ai dit, écoute, ça me reste, je sors de prison, je vois mon meilleur ami Lucas, j'ai fait une promesse, il me dit, il me voit, il sait que j'allais recommencer par rapport à ce qui s'est passé en Suisse, il me dit, je sais que tu vas pas rester comme ça. Il me dit, tu vas recommencer, je dis, écoute, si je dois recommencer, je te le dirai. Il me dit, si tu es mon ami, tu me diras. Donc je fais mes repérages, et 3 jours avant de recommencer, je veux le voir, je lui dis, je vais faire ce casse-là, est-ce que tu veux venir?
Mais avez-vous conscience que toucher à Audemars Piguet, c'est toucher à un monument?
Ben, c'était le but. C'était quand même le but. C'était de dire ce que vous avez fait à des gens comme nous. Je dis pas qu'on doit tout nous donner en prison, mais au moins la dignité. Je comprends pas comment on peut pas embrasser ses parents qui font 800 km ou même 10 km, qu'on peut pas embrasser sa mère, que les lettres sont stoppées, qu'on peut pas écrire aux gens qu'on veut. Que nos amis n'ont pas le droit de venir nous voir en prison. On ne peut pas faire subir aux autres les erreurs qu'on a fait, nous. Pas le droit de se défendre, le droit au silence pas respecté. Alors, tu n'as pas envie de parler, donc on te met dans des secrets, on te change pas de prison, on te fout dans des centrales avec des gens que sur perpète. Ça, je ne pouvais pas le laisser. Et ces gens-là, on dit, la plupart des gens qui étaient en prison avec moi en Suisse le savaient que j'allais faire ça. Pas Audemars Piguet, mais peut-être autre chose. Mais c'était l'idée de dire, il faut. Ben, cet homme politique a dit. Je ne m'appelle pas comment il s'appelle, je ne sais même pas comment il s'appelle. Il dit, quand il faut toucher des trucs comme ça, il faut toucher un symbole, il faut toucher l'État, il faut toucher ce qu'ils aiment pour faire changer les choses ou pour leur faire comprendre les choses. Et en fait, j'ai Audemars Piguet, c'était un symbole, c'est un truc, c'est le fleuron de l'horlogerie. C'est comme si nous, je ne sais pas, on parle des couteaux à la gueule, tous ces trucs. C'est ça, ou la Joconde au Louvre. Et c'est ce qu'ils ont comparé quand je suis passé au jugement. Ils ont dit, mais vous imaginez, on vole chez vous la Joconde. Et comme par hasard, trois ans, quand je me fais juger, ils ont volé le Louvre. Et c'était incroyable. Et la même technique, en plus. Donc j'ai dit, bon, la meilleure façon de rentrer, c'est par la fenêtre. Donc je fais les repérages, je vois que la fenêtre, une fenêtre banale, c'est pas possible, j'ai dit, c'est trop facile. Une fenêtre comme ça, et derrière, il y a tout ça. Et voilà, et en fait... Et en fait, c'est passé comme ça, à l'échelle, comme au musée du Louvre. Échelle, mon collègue qui m'attendait en bas, un complice que j'avais pris avec un autre ami. Et tac, on vit, donc casse, on s'en va. Il disait le lendemain, moi, je ne pense pas que ça allait prendre une ampleur comme ça.
Mais
casse du siècle.
Oui, mais alors pouvez-vous nous décrire ce que vous avez récupéré lors de ce braquage,
hein? Eh bien, en fait, il y avait 59 montres exactement, et que des montres prestigieuses. Que des montres prestigieuses. Bon, il y en a beaucoup qui ne marchaient pas, mais c'était des montres de collection, il manquait certaines pièces, certains trucs. Mais c'était le fleuron d'Audemars Piguet, c'était la montre la plus plate du monde, par exemple. C'est le tourbillon la plus plate du monde, bon, il faut connaître des montres, ça. Il y avait celle de Arnold Schwarzenegger qui avait joué dans Terminator 3. Une légende, alors la légende, est-ce que, moi je ne l'ai pas vu, j'avais le dossier, mais est-ce qu'ils n'ont pas voulu le dire ou est-ce qu'ils l'ont dit? Il y avait peut-être la montre de Lady Diana. Moi, je
pense... Vous ne le savez pas?
Tout ça, je ne le sais pas. Moi, je l'ai su quand je me suis fait arrêter. Je me suis fait arrêter, je me suis fait arrêter 10 ans après. Je me suis fait arrêter de suite après. Et j'ai dit ça, enfin, je me suis...
Mais ils vous avez récupéré tout ça, donc vous n'avez pas vu ce butin?
Je l'ai vu, non, je l'ai vu, bah, j'avais tout. Mais il n'y a pas marqué à qui appartient la montre, on ne sait pas. Ils te disent numéro de série, et ce n'est pas référencé sur Internet ces montres-là. Donc comme c'est des montres de musée, ou des montres, il y avait celle du prince du Maroc, ou du roi du Maroc, je crois, qui avait fait faire un bracelet spécialement crocodile bleu pour lui. Il y avait celle peut-être de Raphaël Nadal, je crois, de Roger Federer, à l'époque, était sponsorisé par Audemars Piguet. Mais nous, quand on fait ça, on ne sait pas. On ne sait pas.
Vous les revendez après?
Je vais voir un ami à nous qui est collectionneur, qui a dit, écoute, moi, je te récupère une partie, j'avais vendu une autre partie à quelqu'un d'autre. Et en fait, voilà, ces parties, moi, on ne les a jamais retrouvées. Hein.
Est-ce que c'est le plus gros coup que vous ayez jamais réalisé?
Pour la presse, c'est le plus gros coup, mais pas pour moi, en fait, parce que... Parce qu'on a fait d'autres choses, d'autres bijouteries pour nous qui étaient en valeur, enfin en argent, on a fait plus d'argent. Mais ça, c'était pour eux, c'est la presse, c'est le plus gros, c'était incroyable de rentrer dans un truc comme ça aussi sécurisé, monument comme ça de la Suisse, rentrer. Ils sont rentrés tellement facilement, ils étaient humiliés en fait. Ils étaient humiliés, c'est-à-dire comment 2-3 ans avant, il y a le musée Jägerkult qui est fait, ils ne savent pas que c'était la même équipe. Et ils se disent, là, ils refont ça, non mais là pour eux, c'était de trop.
Mais après tous ces braquages, là j'ai quand même une petite question qui me revient. Que sont devenus les butins? Vous n'avez pas gardé quelque chose avec vous?
Non, on n'a rien gardé. On a rien gardé.
Regardez-moi droit dans les yeux.
Non, on a rien gardé. On a tout vendu. Ça ne nous intéressait pas. On a tout vendu. Voilà. Mais c'est comme ça. Mais pas de regrets.
Alors, Audemars Piguet pèse lourd dans votre parcours judiciaire. À quel point cette affaire a-t-elle changé votre vie?
Elle a changé beaucoup de choses parce qu'en fait, ils étaient venus me voir en 2011 pour cette affaire-là, mais j'étais incarcéré pour une autre affaire. Voilà. Et en fait, moi, le juge français ne me met pas en examen parce qu'il n'y avait pas d'éléments. Donc, moi... Je sors de prison, comme si je continue ma vie, je reprends le travail, etc. J'oublie tout ça, pour moi c'était du passé. Et un banal contrôle routier en 2018, fin 2018, ils me disent j'ai une fiche de recherche de la Suisse. Je dis mais comment j'ai tout réglé, moi, en Suisse, c'est fini tout ça. Donc je laisse tomber. Après je rencontre une personne, une fille, une Canadienne, qui a compté beaucoup pour moi à l'époque. Et je la rencontre, ben, c'est l'amour, on est amoureux, tatati, ben, viens au Canada. Je l'avais rencontré à Marseille, elle me dit viens au Canada. Et je dis, bon, je vais prendre le. Je vais pas prendre le risque au Canada avec une fiche de recherche à Interpol et tout. Je vais pas rentrer d'un avion.
Avec un mandat d'arrêt international.
Je vais pas voter d'un avion. Et quand on fait les choses avec le cœur, je crois qu'on y arrive toujours. Hein. J'appelle la Suisse, j'appelle le juge. Le juge, il me dit, ouais, bon, venez, on se voit, on fait une audition. Et après, on voit pour la fiche de recherche. T'es-tu? J'ai dit, non, je monte pas. Moi, je monte pas. Il dit, ok. J'arrive à l'agence de voyage, j'arrive à l'agence de voyage, je prends un billet d'avion, je crois que la femme avait compris, elle était jeune, j'ai expliqué tout de justice, si on a un problème avec la justice pour le Canada, est-ce que c'est... Elle commence à rigoler, je dis, pourquoi vous dites ça? Puis je sais pas, je dis, il faut un AVE pour le Canada, par contre, il faut remplir un dossier, c'est comme les États-Unis. Il me dit, il faut que vous remplissiez un truc, c'est vous payez 9$ ou 10$ et vous remplissez le truc de l'AVE. Donc, je remplis le questionnaire. Question banale, vous condamnez? Non. Fiche de recherche? Non. Je dis, c'est pas possible, ils vont pas accepter. Et je reçois 2 jours après, votre AVE est validé. Je dis bon, ça encore, ils n'ont pas dû trop vérifier, ça passe. Je prends mon avion, je monte à Paris, j'arrive devant le premier contrôle, ça passe. 2e contrôle en France, au contrôle aux frontières, ils me disent « Monsieur, vous avez un mandat d'arrêt international de la Suisse, mettez-vous sur le côté. » Donc les gens, ils se mettent à côté, ils se disent « Putain, lui, ça doit être un terroriste, ou je ne sais pas ce qu'il a fait. » Moi, je savais, donc bon. Et ils me disent, on appelle l'OPJ. Donc ils appellent l'OPJ, l'OPJ dit « Bah écoutez, de toute façon, la France n'extrade pas le ressortissant, laissez-le passer. » Putain, incroyable. Laissez-le passer. Et par contre, le policier me dit « Par contre, si tu passes là, à tes risques et périls là-bas. » À tes risques et périls au Canada. Je prends le risque, je monte dans l'avion, mes amis me disent fais demi-tour, rentre, ne va pas au Canada. Bref, je monte dans l'avion, la peur de ma vie, je prie, je dis putain les regrets, et là on s'imagine tout ce qui s'est passé, putain où les regrets, pourquoi? Alors que là peut-être j'aurais été peut-être bien avec cette fille, ouais j'étais bien au Canada, j'étais bien tranquille, nouveau projet, nouvelle vie. Finalement ça se passe super bien au Canada, je repars en France. Je refuse de monter en Suisse toujours pour voir le juge. Et je... Deuxième fois, et ensuite j'arrive la troisième fois au Canada, troisième fois au Canada. Et là, il voit la fiche de recherche. Et il me dit, monsieur, vous avez un mandat d'arrêt international. Ça fait 3 fois que vous venez au Canada. Désolé, vous êtes interdit du territoire canadien. Ils ont été gentils. Ils ont été très gentils. Ils m'ont dit, écoutez, on vous escorte jusqu'à l'avion. Vous êtes interdit du territoire canadien pendant 5 ans. Et je rentre en France, dégoûté, triste. J'ai dit, putain, c'est incroyable, j'ai perdu une fille que j'aimais, j'étais tout, mon travail, j'ai tout perdu. Et avec la famille, les amis, ils ne savent pas de moi. Et après, je suis monté en Suisse, je suis parti voir le juge. Le juge me pose les mêmes questions qu'il m'a posées il y a 10 ans en arrière. J'ai dit, écoutez, moi, c'est pas moi. Les noms, pas les noms, donne pas de noms. Et voilà, en fait, il m'enlève la fiche de recherche. Finalement, je passe en 2021 et j'étais condamné. 3 ans.
Et à ce jour, vous êtes aussi en attente de purger...
une peine. Et une peine. Ça c'est incroyable parce que... Ça, c'est incroyable parce que je ne pense pas que ça arrive qu'à moi. Et ça aussi, ça a été écrit, le livre aussi, pour ça, pour dire il faut changer ce genre de choses. Parce que moi, je n'ai pas recommencé depuis. Hein, je n'ai pas recommis d'acte criminel. C'est des choses qui datent de 2010. Donc, on est quand même en 2026.
Absolument.
Là, quoi. En 2026, ça fait 16 ans, j'ai plus de casier judiciaire en France, j'ai toujours travaillé toute ma vie, sauf qu'on a fait des erreurs, et en fait, voilà. Et en fait, le truc, c'est qu'on se retrouve dans une attente, la justice nous dit, on est là pour la réinsertion. Mais malheureusement, quand on demande de nous aider, personne ne nous répond. On dit, non, mais c'est bon, laissez faire, on verra. Ouais, mais on verra, finalement, ça passe du temps, et finalement, on est là, on est bloqué, on ne peut pas faire les projets qu'on veut, on ne peut pas partir où on veut. On ne peut pas avoir la vie qu'on veut. On se dit tous les matins, est-ce qu'on va se retrouver en prison pour des choses d'il y a 16 ans en arrière? Même si on les a fait, il faut un juste milieu.
Alors après tout ce que vous avez traversé, comment définiriez-vous votre reconstruction?
Grâce à ma famille, mes amis, le travail, l'amour des gens qui nous ont aidés. Parce qu'il ne faut pas oublier tous les gens qui nous ont tendu la main aussi. Il y a des gens qui nous ont tendu la main, des restaurateurs comme Antoine, Jean-Jacques... la clinique où je travaille, Bonneven, enfin, plein de gens, mais que ce soit de tout, même des journalistes qui nous ont tendu la main, qui nous ont dit, je comprends ton désarroi, on va t'aider. Et plein, tous ces gens-là, l'église, la religion, d'autres personnes, des associations qui nous ont aidés. On a essayé d'aider aussi de notre façon aussi. On a aidé plein de gens, hein, parce que les gens disent, oui, ils ont volé, si ça, mais on n'est pas Robin des Bois, hein, on n'est pas là pour se dire, personne n'est Robin des Bois. Mais on a essayé d'aider à ce qu'on pouvait faire. Les gens voulaient travailler, on connaissait du monde, ben tiens, on peut te faire travailler tel endroit, tu veux travailler, problème d'argent, on en avait un peu, tiens, on n'aurait jamais rien demandé en retour, on invitait des gens en voyage avec nous, on a aidé plein de gens, et ça n'enlève pas qu'on doit être condamné non plus.
Et quel conseil donneriez-vous justement à ceux qui traversent des périodes sombres ou qui pourraient être tentés par des chemins dangereux?
Moi, je leur dis que j'ai gagné plus d'argent en travaillant, j'ai gagné beaucoup plus d'argent. Tout ce que j'ai aujourd'hui, que ce soit bien immobilier, c'est grâce au travail. Grâce à l'éducation de mes parents, la politesse, la gentillesse, tout ça, poli avec les gens, que ce soit des banquiers, des gens de grands groupes qui nous ont aidés à avoir des voitures, qui nous ont facilité à avoir des choses. C'est pas parce que ce qu'on a fait avant, c'est par rapport aux personnes qu'on est vraiment, parce qu'on est gentil, on n'est pas méchant. Les banquiers nous ont aidés à avoir des biens immobiliers, etc. Alors que peut-être ce n'était pas possible, et voilà. Donc ils nous ont aidés.
Concrètement, quels sont vos projets pour l'avenir ?
Ben, l'avenir, j'aimerais avoir ma propre affaire à moi, maintenant. Arrêter peut-être le milieu hospitalier où je travaille, avoir ma propre affaire à moi.
Une affaire, c'est-à-dire
un resto, parce que ça me plaît la restauration. Ça m'a toujours plu, ça m'a fait... J'aime la restauration, ouvrir ma propre affaire. Je faisais des trucs pour les associations, je distribuais pour les personnes qui étaient dans la rue, je le faisais. Refaire ça, et pourquoi pas les animaux aussi. Les animaux, les associations pour les animaux, ça me plaît beaucoup.
Si vous aviez une pensée à adresser aujourd'hui à votre famille, à vos proches, à ceux qui ne vous ont jamais lâché malgré tout, qu'auriez-vous envie de leur dire ?
Ben, merci en tout cas, merci. Désolé de vous avoir fait honte pendant un moment de votre vie, parce que les parents, malheureusement, sont quand même touchés par ça. Quand les voisins disent votre fils, il est en prison. Bon, ben, il est en prison, c'est vrai. C'est le regard des gens sur les parents qu'eux, ils ont rien demandé. Pour ça, ils ont dit, on a tout fait pour nos enfants. Et bon, ils ont fait ça, c'est un choix de vie. Mais je les aime. J'aime mes amis, j'aime tous les gens qui m'ont aidé. Et je leur dirai déjà mille fois merci.
Votre livre « De Marseille jusqu'à la Suisse pour le casse du siècle » aux éditions Les Trois Colonnes est un témoignage fort et sincère sur la chute et aussi sur la reconstruction. Pouvez-vous nous dire où les auditeurs peuvent se procurer votre livre ?
De partout, la Fnac, Cultura, Amazon, les commander dans les librairies, il y en a beaucoup dans les librairies, etc. Et tout. Et s'il n'y en a plus, il faut les recommander parce que apparemment ça a bien marché.
Si vous pouviez parler aujourd'hui au jeune garçon que vous étiez, qu'est-ce que vous lui diriez ?
Refais pas ça.
Merci Jonathan Moltado d'avoir partagé votre histoire et votre vérité avec nous ce soir. C'était l'œil de sable pour Fréquence Mistral. Merci à toute l'équipe de Fréquence Mistral. Et n'oubliez pas les amis, peu importe que vous ayez du style, une réputation ou de l'argent, si vous n'avez pas de bon cœur, vous ne valez rien. Bonne soirée à tous.
C'est eux. De Marseille jusqu'à la Suisse, il a suivi la route qu'on suit quand on manque de justice. On croit monter mais on tombe sans s'en rendre compte. Là où l'argent te ment, où les amitiés s'effondrent. Il pensait changer sa vie, il a juste changé son destin. Et c'est derrière les barreaux qu'il a compris qu'on peut perdre tout, même quand on veut juste un demain.